Radio Cité Genève.
Cité Culture. Epiphana Monfaux.
Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Cité Culture. Deux sujets sont au sommaire de ce magazine. Tout d'abord, nous allons évoquer la 18e édition du parcours céramique carougeois qui s'achève ce dimanche 22 septembre à Carouge et à Genève. Cette édition marque un moment important pour cet événement biennal reconnu à l'international. En célébrant ses 35 ans, le PCC se distingue par son exploration des thèmes des écritures, des images, des messages, fin de citation, mettant en lumière la façon dont les céramistes contemporains expriment leur vision du monde à travers leurs œuvres. Voici notre reportage à la galerie Marianne Brand en compagnie d'Émilie Fargue, directrice du PCC. Bonjour Émilie Fargue.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du parcours céramique carougeois. Merci de me recevoir ici à la galerie Marianne Brand à Carouge. Quel a été votre point de départ pour concevoir la thématique des écritures, des images, des messages de cette édition du PCC?
Alors, à chaque édition, on choisit une thématique pour faciliter la communication et aussi pour donner une grille de lecture aux visiteurs du parcours céramique. Et donc avec le commissaire associé Frédéric Baudet, on s'est arrêté sur le choix des écritures, des images, des messages.
Et pour divulguer quoi comme message?
Alors il nous a semblé que c'était une thématique intéressante parce qu'elle permettait en fait d'aborder la céramique d'un point de vue formel d'une part, mais aussi au niveau du sens que les céramistes mettent dans leurs œuvres. Ça peut être au niveau de la traduction de leurs émotions, des messages justement qu'ils veulent transmettre, au niveau de la société, des causes qui leur sont chères, mais aussi pour exprimer leur écriture, leur propre langage formel, parce qu'il faut savoir que les céramistes, souvent, passent des années à créer, à mettre au point un langage qui leur est propre. Et lorsqu'on voit les œuvres qu'ils ont réalisées, on sait que c'est un tel ou un tel qui les a réalisées.
Eh bien justement, ce que vous dites est très intéressant. La céramique est souvent perçue ou vue comme un art traditionnel. Comment les artistes présents à ce parcours céramique carougeois, donc à ce PCC 2024, redéfinissent cette perception?
Alors, c'est vrai que la plupart des artistes qu'on accueille au parcours céramique, et ce, depuis plusieurs éditions, sont des artistes qui maîtrisent la technique, l'art traditionnel de la céramique, mais qui s'inscrivent, on l'essaye au plus possible, dans une vision contemporaine. Donc, ils vont détourner les techniques de traitement de surface, de décor ou de mise en forme pour se les approprier et en faire des choses, des œuvres contemporaines.
Quels critères vous avez utilisés pour sélectionner les artistes et les œuvres présentées cette année?
Comme on en a parlé, il y a une thématique, donc ça c'est un des critères. Et ensuite, ce qu'on essaye de faire, c'est donc de sélectionner des artistes qu'on n'a encore jamais invités au parcours céramique et qui répondent à un critère de qualité, de technicité, aussi au point de vue du message, de l'expression, etc.
Pouvez-vous nous parler d'une œuvre ou d'un artiste ou d'une artiste de cette édition qui incarne parfaitement le thème choisi?
Alors, avec le commissaire associé, on a invité Stéphanie Marie Ross, qui est une artiste allemande, qui a justement un travail qui est une sorte de chronique de notre société. Elle crée des sculptures, des personnages qui sont un peu comme ces images qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, un petit peu clichés, et qui décrivent, comme on disait, à la façon d'un daumier, ses contemporains, avec les travers, mais aussi avec beaucoup de tendresse. C'est une exposition qui aura lieu à la Maison Pertin, dans la même rue, à la rue Ancienne. Ici, on est à la galerie Marianne Brand, où on expose Caroline Andrin.
Qui est cette artiste, justement?
Alors, Caroline Andrin, c'est une artiste d'origine suisse qui vit actuellement en Belgique. Elle nous présente ici des œuvres inspirées des ritons, qui sont des coupes antiques, qui ont une forme animale, souvent zoomorphe, on peut dire, et qui sont réalisées à partir de moules très particuliers. En fait, traditionnellement, on coule de la céramique dans du plâtre. Elle utilise des gants. Elle utilise des gants en tissu ou en cuir plus particulièrement, ce qui donne en fait un traitement de surface très sensible, très ambigu, parce que donc on a des objets en céramique, mais on n'est pas trop sûr en fait de quoi ils sont faits lorsqu'on les voit.
Sous nos yeux, on a une œuvre qui est faite quand même de verre.
Alors celle-là, c'est plus évident. Bravo.
Donc, on peut la décrire en donnant nos yeux, en prêtant nos yeux aux auditeurs auditrices.
Alors on a une pièce d'environ 25-30 cm qui est comme une coupe ouverte au-dessus avec une anse en verre très délicate, assez brillante. Et le reste de la coupe, en fait, on dirait une sorte d'animal, on ne sait pas trop comment, quoi, un petit peu mat comme ça, texturé. Voilà. Toutes les pièces autour de nous ont cette matière assez, comme je disais, un peu ambigu, et on a très envie de toucher, mais il faut faire attention, c'est de la céramique, c'est fragile. Mais voilà, il y a ce côté velouté, doux, qui rappelle justement la texture de la peau et du cuir. C'est une des matières très sensuelles. Et effectivement aussi, au niveau des couleurs, on est aussi dans des couleurs presque de peau, mais qui sont aussi des couleurs de l'argile naturelle.
Vous avez parlé de zoomorphologie. Il y a un court instant, on se trouve en face de deux œuvres bicéphales, si on peut le dire ainsi.
Oui, alors effectivement, c'est presque comme des, vous savez, les thèses Rorschach, qui s'ouvrent comme un papillon, avec deux têtes, qui sont presque des têtes de licorne, avec une corne sur le dessus, des petites oreilles, des grands yeux, posés sur des socles en bois. Il y en a une autre à côté aussi, qui peut être dans la même idée, dans la même structure.
On ne peut pas toucher, c'est vrai, mais au regard, on a l'impression que l'artiste a utilisé une sorte de moule en cuir.
Et c'est ça, exactement. Comme je disais avant, ce sont des gants en cuir qui servent de moule. Et aussi, ce qui va donner cette texture très particulière, c'est l'usage de la terre sigillée, en fait, qui est comme un vernis fait d'argile, très très fine, très délicat, et qui est aussi une manière antique de recouvrir les céramiques pour les rendre étanches. Si vous voyez les vases grecs, vous voyez avec les décors un peu rouges, c'était aussi des terres sigillées. On peut aussi observer ces pièces-là qui sont peut-être plus céramiques dans le traitement de surface, qui donc reprennent un peu le même principe de zoomorphe, en fait. Donc là, on a deux cornes, voire même plus, un peu comme une sorte de chevreuil. Et donc ça, c'est des pièces qui ont été cuites dans un four à bois, ce qui donne en fait ce côté un peu rouge, un petit peu presque comme de la rouille. Et puis, on a un émail translucide, un peu craquelé, qui dégouline, qui nappe la pièce aussi pour animer la surface.
Au-delà du PCC, ces œuvres seront à découvrir jusqu'à quand ?
La majorité des expositions se terminent le 22 septembre à la fin du parcours céramique. Maintenant, voilà, vous pouvez voir certaines expositions qui dureront un petit peu plus longtemps, mais là, je ne peux pas vous dire de mémoire lesquelles.
La directrice, par exemple, de la galerie peut nous dire ce qu'il en est. Elles vont rester encore pendant combien de temps après ?
Pour moi, c'est une évidence qu'il y a une prolongation à cette exposition parce qu'elle est exceptionnelle. Et je trouve que 10 jours, c'est trop court. Donc, c'est jusqu'au 11 octobre.
On va prolonger jusqu'au 11 octobre, donc ici, à la galerie Marianne Bran. Merci en tout cas à vous, Émilie Fargue. Vous êtes la directrice du parcours céramique carougeois. Et pour être complet sur le sujet, sachez que le 19e concours international de céramique de Carouge, axé sur le thème de la fête, a récompensé trois œuvres remarquables pour leur originalité, qualité technique et adéquation avec le sujet imposé. Ainsi, le prix de la ville de Carouge a été attribué à Timothée Humber pour sa pièce Carnaval qui offre une approche contemporaine des divinités festives. Le prix de la Fondation Bruckner est allé à Valdas Kurklietis pour Dance, une œuvre figurative et narrative. Et enfin, le prix Suisse Céramics a été décerné à Stanislas Cornier pour Gendrillon, une réinterprétation moderne et technique du conte de Cendrillon. Ces œuvres donc sont exposées au musée de Carouge jusqu'au 1er décembre prochain. À présent, parlons du jugement de Salomon, une invitation à la réflexion de l'église protestante de Genève qui propose un cycle d'animation dont une pièce de théâtre éponyme jouée toute cette semaine à la Julienne à Plan-les-Ouates. Des ateliers autour du célèbre récit biblique du jugement de Salomon sont aussi proposés. Ce projet novateur qui se déroule tout au long de cette année et qui s'achèvera en novembre prochain invite le public à une exploration approfondie des notions de justice, de sagesse et de pouvoir à travers les âges et les cultures. Nous sommes durant quelques minutes avec Roland Benz, l'initiateur du projet. Bonjour Roland Benz.
Bonjour monsieur.
Initiateur du projet Salomon 2024, pourquoi avoir choisi justement le récit du jugement de Salomon comme point de départ de ce projet ?
Alors c'est un récit que j'aime bien parce qu'il y a une forme d'intrigue qui participe même du récit puisque Salomon est devant une situation inextricable et où il doit juger. Et je trouvais que ce récit pouvait très bien être à la base d'une pièce de théâtre. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon ami Miguel Fernandez, auteur et metteur en scène, s'il pouvait écrire un scénario à ce sujet.
Quels aspects justement de cette histoire vous a particulièrement intéressé ?
Il y a l'aspect de l'intrigue, parce que le roi Salomon, qui vient d'être intronisé, doit juger, c'est-à-dire discerner qui dit la vérité entre deux femmes prostituées qui vivaient ensemble et qui ont accouché chacune d'un fils. Mais voilà que l'un est mort étouffé et chacune revendique l'enfant vivant. Et il n'y a aucun moyen, même dans le récit, de savoir quelle est la bonne mère. Et c'est toute la démarche de Salomon qui, à un moment donné, fait venir une épée. Et cette épée, elle est le symbole de la puissance, de la gouvernance autoritaire, telle qu'il l'a pratiquée déjà, telle que son père, le roi David, l'a pratiquée. Et cette épée, elle suscite évidemment la frayeur. Et il dit, coupez l'enfant en deux et donnez-en une moitié à chacune des mères. Et c'est à ce moment-là que la mère, la vraie mère, dit le récit, crie en disant, non, donnez-le-lui, surtout ne le faites pas mourir. Donc, et c'est ce qu'il permet de dire, c'est elle la vraie mère, alors que l'autre dit non, coupez-le en deux, il ne sera ni à toi ni à moi. Donc, le critère, et c'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'au moment où Salomon, comme tous les rois, établit sa puissance par la force, voilà qu'il est finalement, dans ce discernement, appelé à écouter. Il écoute une méprisée, une femme prostituée, qui crie pour son enfant, un nourrisson, le plus petit du royaume. Par conséquent, les critères de gouvernance ne sont plus ceux de la puissance, mais de l'écoute des plus petits. Et ça, ce récit joue un rôle important dans l'histoire royale parce que il renverse les critères de gouvernance. C'est beaucoup cela qui m'avait intéressé. Et du coup, il y a toutes sortes de thèmes qui découle de cela. Il y a le thème effectivement de la justice, et toute l'Église protestante a placé son année sous le thème de la question de justice. Mais justice, vérité, parole, parole vraie, parole mensongère, mais aussi la place des exclus, puisqu'il s'agit de prostituées, la place de l'enfant, puisqu'on est prêt à tuer un petit. Donc il y a toutes ces choses-là qui interviennent et qui font que c'est extrêmement riche.
Les prochaines dates de ce Salomon 2024, après la pièce de théâtre jouée à la Julienne ?
Le mardi 1er octobre à 18h30, ce sera à la Maison des Associations, Justice économique et finances durables, avec des intervenants tout à fait compétents et qui marquent la société. Nous aurons une soirée « Quand l'art raconte le jugement de Salomon », atelier créatif et interactif. Lui, ce sera le mercredi 2 octobre au Centre protestant de la Jonction, 24 rue Gourgas. Nous aurons un atelier « Les droits de l'enfant et sa place dans la société » et ceci, ce sera le 7 octobre à 20h au Temple de Plan-les-Ouatt. Et puis, « La toute-puissance des enfants », Arthur a 4 ans, ou « La toute-puissance triomphante » à la maison et 10 ans après, par Madame Edith Tartare-Godet, qui est une psychologue spécialiste de ces questions et qui viendra le 11 octobre et le 1er novembre à 20h au Temple de Plan-les-Ouatt. Nous aurons aussi l'atelier musical « Quand la musique chante Salomon » le 17 octobre à 20h au Temple de Plan-les-Ouatt avec le père Philippe Mattet. Une séance cinéma où un professeur de l'École des arts commentera le film de Le Sacrifice de Tarkovsky le 14 octobre à 19h30 à la salle de paroisse du Bourg de Four. Puis encore, de la sagesse dans différentes religions et traditions religieuses avec des intervenants assez célèbres, dont Galette Benchaik, le jeudi 14 novembre à 18h30. Et nous aurons finalement une grande fête le 24 novembre à 17h au Temple de la Madeleine pour mettre un point final à cette année Salomon 2024.
Merci à vous, Roland Benz. Donc, vous êtes l'initiateur de ce projet Salomon 2024. C'est une vingtaine d'animations et d'ateliers thématiques qui ont lieu durant toute l'année 2024. Je dis également merci à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.